Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel et c'est le moment de votre cup of tea en compagnie de Véronique Réau avec Émilie à la technique. Ce mois-ci, nous allons prendre notre tasse de thé en compagnie d'une écrivaine dont je soupçonne que le nom ne vous dira pas grand-chose, mais qui mérite que l'on fasse sa connaissance, car elle nous invite dans un monde de charme et d'humour, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas inutile à nos humeurs trop souvent en berne. Angela Margaret Thurkell est née le 30 janvier 1890 et morte le 29 janvier 1961. Elle était la fille de John William McHale, qui enseigna la poésie à Oxford entre 1906 et 1911, et de Margaret Burne-Jones, fille du célèbre peintre pré-raphaélite Edward Burne-Jones, pour qui, toute sa vie, Angela aura la plus grande admiration et la plus profonde affection. Par sa mère, Angela Thurkell était également la cousine de Rudyard Kipling et de Stanley Baldwin, homme politique britannique très important, puisqu'il fut 3 fois Premier ministre, et que c'est lui qui dut faire face à la crise qui suivit l'abdication d'Édouard VIII, futur duc de Windsor, remplacé sur le trône par son frère Albert, qui régna sous le nom de George VI, et était, comme vous le savez, le père de la reine Elisabeth II. Lorsque j'aurais ajouté que le parrain d'Angela, né McHale, n'était autre que James Barry, l'auteur de Peter Pan, vous aurez une idée du milieu dont elle était issue, particulièrement propice à l'éclosion d'une femme de lettres. Angela avait une sœur, Claire, et un frère, Dennis, qui fut lui aussi écrivain et bien que plus oublié encore qu'Angela, connut une carrière assez enviable. Angela fit ses études à Londres et aussi à Paris en Allemagne. Et l'on retrouve dans ses ouvrages un parfum de cette éducation européenne. C'est justement à son retour de Paris qu'elle fait la connaissance d'un baryton connu à l'époque, James Campbell McInnes, qu'elle épousera en 1911 à l'âge de 21 ans. Avec lui, Angela aura 3 enfants, 2 fils et 1 fille. Graham, qui deviendra diplomate et écrivain, Colin, qui sera journaliste, il travaillera à la BBC et romancier, mais écrira des livres plutôt plus sombres, très différents de ceux de sa mère, et la petite fille, Marie, qui vivra à peine 1 an. C'est peu de temps après la mort de cette petite fille, en 1917, qu'Angela divorcera de James Campbell McInnes dans une atmosphère d'énorme scandale, scandale sur lequel nous ne nous attarderons pas car ce n'est pas notre propos. En décembre 1918, Angela se remarie, cette fois-ci, avec un ingénieur australien, George Lancelot Thurkell, et en 1920, elle part s'établir en Australie avec son mari et ses fils. Mais Angela, habituée à une vie brillante dans un milieu très aisé et cultivé, ne se fait pas à la vie médiocre qu'elle mène en Australie. En 1929, peu après la naissance de son 3e fils, Lancelot, elle quitte son mari sans tambour ni trompette, prétextant des vacances dans sa famille, mais avec la ferme intention de ne plus jamais remettre les pieds en Australie. C'est son parrain, Sir James Barry, l'auteur de Peter Pan, qui lui avance l'argent du voyage aller-retour, argent dont elle se servira pour acheter 2 allées simples pour elle-même et son plus jeune fils, Lancelot. Son 2e fils, Colin, la suivra peu de temps après, mais Graham restera à Melbourne. Avec ce départ d'Australie, Angela mettra non seulement fin au couple qu'elle formait avec George Thurkell, mais plus radicalement à toute idée de couple. Dans un entretien pour le journal The Observer, elle déclare sans embâge « Les choses sont bien plus simples sans mari », au pluriel. Angela Thurkell avait commencé à écrire dès qu'elle s'était installée en Australie, surtout poussée par des besoins financiers. Son premier article, paru en 1921 dans le Cornhill Magazine, fut suivi par beaucoup d'autres, ainsi que par des nouvelles et des émissions pour la radio australienne. À son retour en Angleterre en 1929, sa carrière se poursuivit avec une activité de journaliste, de la littérature enfantine, puis des romans. Angela Thurkell sera une écrivaine prolifique, puisque l'on compte à son actif 40 romans. La majeure partie de ses romans sont un cycle de 29 ouvrages qui font partie de ce qu'elle a publié sous le nom de « Chronique du Barsetshire », ce qui ne manquera pas de faire dresser l'oreille à ceux de nos auditeurs familiers avec la littérature anglaise du 19e, et plus particulièrement avec Anthony Trollope, puisque le comté du Barsetshire est un comté imaginé par cet écrivain où se passe une série de 6 de ses romans. Il est donc amusant et paradoxal de constater que l'inventeur du Barsetshire n'a publié que 6 fictions qui y prennent place, alors qu'Angela Thirkell en a publié 29. Angela Thirkell a aussi cité, sans complexe et sans les mentionner, des extraits d'ouvrages de Dickens, Thackeray ou Elizabeth Gaskell. Mais cela ne semble pas grave au regard du plaisir que nous apportent ces œuvres et aussi dans la mesure où elles-mêmes ne se prenaient absolument pas au sérieux. Elle se disait d'ailleurs horrifiée à l'idée que ses amis et relations de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie puissent lire ses œuvres et déclarait qu'elle préférait savoir qui lisait Jane Austen, Charles Dickens ou Marcel Proust, ce qui était son cas. Et pourtant, on l'a elle-même parfois comparée à Jane Austen pour son humour subtil, légèrement caustique, son évocation très vivante de la bonne société dans l'Angleterre rurale des années 30 et sa très fine peinture psychologique des personnages. Un article du New Yorker, pas tout nouveau puisqu'il date de 1996, titrait « Pourquoi de si nombreux lecteurs prennent-ils refuge dans la « petite Angleterre » entre guillemets d'Angela Thirkell ?» Eh bien, à cette question, je crois que je peux apporter une réponse. Tout simplement parce que les romans d'Angela Thirkell sont un refuge. Oh, certes, les intrigues sont simplettes, un peu cousues de fil blanc, et pratiquement dès la page 5, on sait à peu près comment l'histoire va se terminer et qui va se marier avec qui. D'ailleurs, dans une lettre adressée à son éditeur James Hamilton, Angela Thirkell comparait elle-même son dernier roman, elle en écrivait un par an, à du vin nouveau dans une vieille bouteille. Mais le charme opère, cette atmosphère de douceur, de tranquillité heureuse, vous enveloppe comme une valse de Vienne ou un bon bain chaud, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer à affronter les vicissitudes de l'existence. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ces romans ne sont pas niais. Thirkell porte sur la société dans laquelle elle évoluait un regard qui, pour majoritairement bienveillant qu'il soit, sait également être critique. Personnellement, j'apprécie beaucoup la façon dont elle donne vie à ses personnages, non pas par des descriptions, mais par les situations dans lesquelles elle les fait évoluer et qui donne en quelques lignes une idée percutante des caractères. Dans Wild Strawberries, roman de 1934, deuxième de la saga, traduit en français sous le titre « Le parfum des fraises sauvages », le portrait de Lady Emily Leslie est particulièrement touchant. Lady Emily est le charme personnifié, et personne ne le peut lui en vouloir de quoi que ce soit, même pas d'arriver toujours en retard à la messe, à commencer par le révérend lui-même, qui n'ose même pas reprocher au bedeau de prolonger à dessein la sonnerie des cloches pour lui donner une chance supplémentaire d'arriver à temps. Lady Emily passe sa vie à semer ses châles, ses lunettes, ses broderies, ses livres, et les membres de sa famille ainsi que ses domestiques passent la leur à chercher tous ces objets et à les retrouver parfois dans les endroits les plus insolites. Lady Emily complique toutes les situations, oublie tout, mélange tout, à un point tel que l'on se demande si tout de même elle ne souffrirait pas d'un début de maladie d'Alzheimer. Et on se dit que vivre auprès d'une telle femme, si délicieuse soit-elle, doit tout de même constituer une épreuve. Et puis, on apprend que Lady Emily a perdu à la guerre de 14 son fils aîné, et on comprend mieux. Le cadet des fils de la famille Leslie, David, est un séducteur né doublé d'un oisif trop gâté. Voici ce qu'en dit Angela Thirkell. S'il avait dû gagner sa vie, David aurait représenté un problème sérieux. Cependant, en raison de la partialité irréfléchie d'une de ses tantes, il était financièrement indépendant depuis plusieurs années. Par conséquent, il vivait en ville et rêvait de monter sur les planches, de faire du cinéma ou de passer à la radio. Bien entendu, même lorsqu'une occasion se présente pour lui faire réaliser l'un de ses rêves, David se débrouille pour tout faire capoter. L'un des passages du livre qui m'a le plus amusé est précisément le récit de l'audition qu'il passe à la BBC pour obtenir un poste. Il a la malencontreuse idée de choisir un texte de Milton, particulièrement pompeux et un tantinet ridicule, et qui, lorsqu'il l'avait lu au cours d'une soirée en famille, avait provoqué un fou rire chez son neveu Martin. Mais cela ne lui avait pas servi de leçon. Voici le récit de cette désastreuse expérience. Son poste à Broadcasting House ne s'était pas matérialisé. Il avait passé un essai et, sur un coup de tête, avait choisi de lire l'extrait de Milton qui avait provoqué l'hilarité de Martin. Parvenu au verre, rejette éclaboussure et bruit, il se remémora l'expression de son neveu et, se renversant sur sa chaise, rugit de rire dans le micro scandalisé. Joan Stevenson, la très compétente jeune femme responsable du département qui organisait les lectures édifiantes de poésie, en fut choquée. Et même, comme elle préféra le dire, franchement choquée. Et le reconduisit dans son bureau en état de disgrâce. Cette aventure, vous vous en doutez, mettra un point final aux espoirs radiophoniques de David, qui poursuivra sans autre problème sa vie d'oisif, de charmeur et de briseur de cœur. On trouve bien sûr, dans les Barsetshire Chronicles d'Angela Thirkell, 29 volumes, je vous le rappelle, une énorme collection de personnages, dont beaucoup appartenant à la même famille. Il semblerait d'ailleurs qu'il soit arrivé à l'auteur elle-même de se prendre légèrement les pieds dans la généalogie de ses personnages, ce qui n'est pas très grave, et nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Cette famille est celle de Lady Leslie, dont nous avons parlé au début de cette émission, la charmante dame qui perd tout et qui oublie tout. Lady Leslie est la fille de Lord Pomfret, un personnage lui aussi haut en couleur, que l'on rencontre en particulier dans le roman intitulé Pomfret Towers, qui date de 1938. J'ai beaucoup aimé dans Pomfret Towers le passage concernant le différend de Lord Pomfret avec Mr. Barton, le locataire de Millings, une maison qui appartient à Lord Pomfret et se trouve proche de son château de Pomfret Towers. Le différend porte sur le chauffage central que Mr. Barton souhaite installer. Mr. Barton avait dû mener un rude combat contre Lord Pomfret avant de pouvoir faire installer le chauffage central, sa seigneurie ayant la ferme conviction que seuls les étrangers voulaient avoir des maisons chauffées. Lorsque Mr. Barton eut réussi à écarter ses convictions patriotiques, sa seigneurie avança l'argument imparable que son grand-père n'aurait jamais fait ce genre de choses. Mr. Barton eut suffisamment de sang-froid pour s'abstenir de faire remarquer à sa seigneurie que la mort du cinquième comte, à l'âge de 21 ans, due à une semaine de libation pour célébrer sa majorité, ne lui avait pas offert l'occasion de donner son opinion sur le chauffage central, une science alors balbutiante. Outre le Barsetshire Chronicles, qui constitue, nous l'avons vu, les 9/10 de son œuvre, Angela Thirkell a également écrit un livre de mémoire, Three Houses, Trois Maisons, qui a été son premier ouvrage publié et a connu un très grand succès. Elle y évoque son enfance victorienne dans les trois maisons qu'elle a aimées, The Grange, la propriété de ses grands-parents à Fulham, aujourd'hui quartier de Londres mais à l'époque hameau rural, la maison de ses parents à Kensington et la propriété acquise par ses grands-parents à la fin de leur vie, Northern House à Rottingdean, près de Brighton. Elle a également écrit trois romans semi-autobiographiques qui, par contre, ne sont pas des réussites et ne sont pas passés à la postérité. Ankle Deep, jusqu'aux chevilles, What Happened on the Boat, qui s'est passé sur le bateau, qui est l'histoire de passagers anglais et australiens à bord du bateau qui les emmène en Australie après la Première Guerre mondiale, et Oh, these men, oh, ces hommes. Et enfin, un roman historique, très bien documenté, Coronation Summer, qui retrace les événements qui ont accompagné le couronnement de la reine Victoria en juin 1838. Mais il est clair que la partie la plus intéressante de son œuvre reste les Barsetshire Chronicles. Sa dernière œuvre fait d'ailleurs partie de cette série. Elle est intitulée Three Score and Ten, littéralement 3 x 20 et 10. 60 et 10, allusion à une phrase du psaume 90, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, les jours de nos années s'élèvent à 60 et 10 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. » Il semblerait qu'Angela n'était pas robuste, car elle est morte avant d'atteindre 71 ans, sans avoir terminé le livre, qui sera terminé par une de ses amies intimes, Caroline Lejeune. En janvier 1961, la veille de son 71e anniversaire, Angela meurt dans une maison de retraite à Bramley, dans le Kent. Elle est enterrée au cimetière de Rottingdean, auprès de sa petite-fille Mary. Si vous lisez l'anglais, vous n'aurez que le choix pour vous plonger dans les romans d'Angela Thirkell, car la plupart ont été réédités. Par contre, deux seulement, en tout cas à ma connaissance, sont traduits en français et disponibles, High Rising, le premier de la série des Barsetshire Chronicles, et Le Parfum des Fraises Sauvages. En tout cas, ne vous refusez pas le plaisir de cette lecture qui s'accorde parfaitement avec un nice cup of tea. Et au mois prochain !